cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire, une série consacrée au pouvoir de l'Église à l'époque médiévale, et qui dit le pouvoir de l'Église dit bien évidemment le pouvoir de la monarchie pontificale, puisque nous avons vu la semaine dernière qu'il fallait parler de monarchie pontificale plutôt que de théocratie pontificale. Arnaud Fossier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être revenu à ce micro, au micro de Storia Voce. Comme je viens de le dire, nous avons entamé une série en trois volets. Nous allons parler aujourd'hui d'un personnage qui est incontournable, il faut le dire, et pourtant qui est assez oublié, malheureusement, mais qui va marquer l'histoire de l'Église, notamment à travers un concile, le concile de Latran IV. Il s'agit d'Innocent III. Nos auditeurs peuvent revenir, s'ils le souhaitent, aux deux premières parties de cette série. Donc, la première partie qui est consacrée au pouvoir temporel et au pouvoir spirituel. La deuxième partie qui est consacrée à la réforme grégorienne. Et donc, nous entamons aujourd'hui cette étude de ce personnage, Innocent III. Pourquoi avoir choisi Innocent III, Arnaud Fossier ?
Eh bien, comme pour toute bonne biographie, il faut un personnage à la fois typique et atypique, à la fois ordinaire et extraordinaire, à la fois banal et exceptionnel, banal pour son temps, hein, je veux dire. Et Innocent III est tout à fait, de ce point de vue-là, est tout à fait représentatif. Il se situe à un moment charnière aussi d'une histoire plus globale, hein, de l'histoire européenne, de l'histoire politique européenne. Et d'ailleurs, il se retrouve, on en redira sans doute un mot, mais il se retrouve impliqué dans de très nombreux conflits entre princes. Il est aussi celui qui parachève la construction de l'État pontifical, celui qui pousse à son paroxysme l'idéologie dont on a parlé, hein, dans les cours précédents, l'idéologie de la monarchie pontificale. Et puis, il est celui aussi qui incarne cette Église très puissante, qui lutte avec acharnement contre ses ennemis, hein, les juifs, les hérétiques, les musulmans à travers les croisades. Bref, à défaut d'être un personnage attachant, c'est un personnage absolument fascinant, et déjà pour ses contemporains, puisque ses contemporains l'avaient qualifié de stupor mundi, c'est-à-dire de stupeur du monde.
Comme l'empereur
Frédéric II, exactement. Ouais.
Alors, un mot peut-être de son parcours. C'est un juriste, donc parce qu'il y a du droit dans l'Église, et l'affirmation du droit à l'époque médiévale, dans les quatre derniers siècles de l'époque médiévale, est bien évidemment majeure.
Alors, comme ces lettres... ça, c'est un mythe qui a été un petit peu déconstruit. Comme ces lettres sont effectivement imprégnées de droit, notamment de droit canonique, mais pas seulement, de droit civil aussi, de droit romain, on a longtemps pensé que c'était un brillant juriste qui avait été formé lui-même, qui avait été formé au droit.
Dans l'école de Bologne.
Exactement, oui. Exactement. En réalité, alors ça, c'est vrai qu'il est passé par Bologne, mais assez brièvement, il est passé plus longtemps, il a fait la majeure partie de ses études, il les a faites à Paris, et c'était des études de théologie. En réalité, ce qu'il a appris à Bologne, c'est sans doute pas tant le droit, que la philosophie naturelle, et puis la rhétorique. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'il a sans doute été envoyé à Bologne par son protecteur de l'époque, qui était le cardinal Octavien, et qu'il a envoyé se former à Bologne pour qu'il devienne un bon copiste, voire un bon notaire au sein de la curie pontificale. Donc les connaissances qu'il a en droit canonique, elles lui viennent plutôt de son passage à Paris, et puis surtout, en fait, une fois élu pape, il a su s'entourer d'équipes de juristes confirmés et aguerris. Une dernière chose à savoir sur son profil intellectuel, qui est très intéressant parce que c'est une chose assez rare chez les papes, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, Innocent III. Il a notamment écrit des traités qui portent une vision assez sombre et assez pessimiste de la condition humaine. Et Il a écrit un traité de liturgie aussi, et on sait du reste que comme pape, on le sait par sa biographie, par les gestas qui ont été écrits de son vivant, Innocent III était plutôt du genre austère, frugal. Ses journées étaient rythmées par les prières, les méditations. Donc un théologien presque intéressé par la mystique, finalement plus qu'un juriste à proprement parler.
Alors que longtemps on en a fait un personnage, un homme de pouvoir, alors que visiblement l'historiographie réhabilite le spirituel.
Oui, alors ça n'empêche pas cette dimension spirituelle très forte du personnage, n'empêche pas qu'il se fasse dès son arrivée sur le trône pontifical, hein, donc en janvier 1198, ça n'empêche pas qu'il se fasse une conception très haute de son pouvoir, une conception qu'on pourrait même dire absolutiste. En réalité, Innocent III, c'est celui qui met en forme et qui surtout met en application bon nombre des idées théocratiques qu'on a eu l'occasion d'évoquer lors des cours précédents. En cela, c'est un héritier, c'est un parfait héritier des papes grégoriens. C'est lui qui affirme dans plusieurs de ses lettres, de ses décrétales aussi, donc des lettres qui ont force de loi, c'est lui qui affirme qu'il est le vicaire du Christ, que sa majesté, il parle de sa majesté, d'une majesté qui est atteinte par le crime le plus grave qui soit, c'est-à-dire le crime d'hérésie. Et puis, c'est lui aussi qui se dit investi donc d'une plénitude de puissance, c'est-à-dire d'un pouvoir incommensurable à celui des autres prélats.
Vous parlez de majesté, vous parlez de plénitude de puissance. Ce sont des mots qui signifient bien que le pouvoir, alors, inouï, mais inédit qu'Innocent III s'est arrogé est réel, mais de quel œil les États séculiers ont-ils perçu l'affirmation de ce pouvoir ? Et plus largement, quels furent les rapports d'Innocent III avec les souverains de l'époque ?
Innocent III n'a eu alors de cesse vraiment de se mêler des affaires des princes en France, en Angleterre, dans l'Empire. Bon, et pour cause, il affirme assez tôt, là encore dans une décrétale de 1202, il affirme que il affirme sa juridiction dans les causes temporelles, donc son droit d'intervenir pour juger certaines causes temporelles. Il affirme aussi que en cas de contestation de l'élection impériale, eh bien c'est lui qui tranchera, c'est lui qui décidera. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, en 1210, il excommunie celui qui est l'empereur de l'époque, à savoir Othon de Brunswick, et il favorise ainsi l'ascension de son pupille, qui n'est autre que le futur Frédéric II, enfin Frédéric de Hohenstaufen. Il en favorise l'ascension après la défaite d'Othon IV à Bouvines. En 1214, Othon IV perd face à Philippe Auguste, et Innocent III donc profitera en quelque sorte de cette aubaine pour placer son pupille à la tête de l'Empire. Et puis on peut penser aussi aux affaires matrimoniales, aux démêlés matrimoniaux du roi de France. Là aussi, Innocent III n'hésite pas à intervenir au moment où Philippe Auguste répudie son épouse, une princesse danoise, son épouse Ingeborg, pour se remarier avec Agnès de Méranie. Eh bien là aussi, Innocent III intervient et frappe très fort d'une certaine manière, puisqu'il place tout le royaume de France sous interdit.
On ne peut être que frappé, Arnaud Fossier, par la modernité de ce pouvoir, dans le sens où il annonce, en quelque sorte, au début du XIIIe siècle, ce que seront les États modernes qui ne se développeront que bien plus tard, au XVIe siècle.
Oui, alors là, c'est un aspect aussi assez bien connu de ce pontificat hors norme, de ce pontificat exceptionnel, même si aujourd'hui, c'est-à-dire la modernité de ce gouvernement ou la modernité de l'État qu'il crée, même si aujourd'hui les historiens tendent un peu à réévaluer l'apport de ce pontificat, notamment en insistant sur l'un des prédécesseurs d'Innocent III, à savoir Alexandre III, qui a beaucoup fait aussi pour le renforcement de cet état pontifical, et puis, au contraire, un successeur d'Innocent III, qui a joué sans doute un rôle plus prépondérant encore dans la création de cette administration pontificale, et qui était Honorius III. En revanche, ce qui est sûr, c'est que quand même, ce pontificat d'Innocent III correspond à un moment de bureaucratisation, avec les guillemets qui s'imposent, mais de bureaucratisation de la curie,
oui,
notamment de la chancellerie, qu'Innocent III contribue à subdiviser en plusieurs bureaux distincts. C'est aussi un pontificat qui est connu pour le très grand nombre de lettres dont Innocent III véritablement inonde en quelque sorte la chrétienté, y compris ses périphéries les plus lointaines. Innocent III adresse des lettres en Arménie, en Bulgarie, en Scandinavie, etc. Et puis, il crée aussi Il ne crée pas, mais disons qu'il renforce le système d'archivage de ses lettres et de sa correspondance. C'est quand même plus de 6000 lettres qui ont été enregistrées, et on estime que ça correspond seulement à 20 ou 30% du total des lettres que Innocent III a envoyées durant son pontificat. Et enfin, il y a l'aspect plus judiciaire et plus largement juridictionnel aussi de cette réforme ou de cette transformation de la curie, puisque c'est sous Innocent III qu'on voit apparaître alors un office qui m'est particulièrement cher. C'est quand même lui qui contribue à la création de la pénitencerie apostolique.
Votre sujet de thèse.
Voilà, exactement. Qui est un office pontifical qui ensuite va prendre énormément d'ampleur, mais c'est aussi à son époque que est créé ce qu'on appelle l'auditeur des lettres contredites. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais lui aussi joue un rôle judiciaire et juridictionnel au sein de la curie. Donc, il y a plusieurs aspects à cette transformation et cette modernisation de l'État pontifical.
Ce qui est fascinant chez ce personnage, c'est que c'est autant un grand politique, un grand administrateur, on vient de le voir, qu'un grand spirituel, un grand pasteur. Il lavait les pieds des pauvres chaque semaine, il ne le faisait pas une seule fois dans l'année, il le faisait chaque semaine. Nous l'avons évoqué à propos de la figure de Saint François, qui est une figure qui traverse les siècles. Que peut-on dire de cette œuvre pastorale d'Innocent III? Est-ce qu'elle se cantonne au concile de Latran IV en 1215, ou est-ce qu'elle va bien au-delà?
Non, sans doute pas, même s'il faut bien reconnaître qu'il est tout de même l'orchestrateur de ce qui est le plus grand concile du Moyen-Âge, un concile qu'il convoque en 1213, qui se réunit à la fin de l'année 1215, qui réunit plus de 1200 hommes d'église. C'est un concile colossal, et surtout c'est un concile qui s'occupe d'à peu près tous les aspects de la vie religieuse du temps, qui s'occupe à la fois des aspects doctrinaux, de l'organisation du clergé, de la discipline ecclésiastique, des pratiques religieuses des laïcs. C'est d'ailleurs surtout pour ça qu'on connaît encore l'œuvre de ce concile, qui rend notamment, en son canon 21, qui rend la confession des péchés obligatoire, au moins une fois par an.
La confession individuelle,
tout
qui est une révolution des consciences, en fait, parce c'est la responsabilité individuelle qui prime.
Bien sûr, exactement, oui, tout à fait. Donc là aussi, ça va avoir des conséquences qu'on pourrait dire culturelles au sens large, mais qui transforme la société chrétienne en profondeur. Ce concile légifère aussi sur la question du mariage, des degrés de parenté, des interdits de parenté, plus exactement. Enfin bon, il contribue, ce concile, clairement à ce que certains ont pu appeler la révolution pastorale de l'Église, et c'est tout de même Innocent III qui est à la manœuvre. Cela étant, ça n'est qu'un aspect effectivement de son œuvre pastorale. Vous le disiez, il faut mentionner les ordres mendiants qui sont créés, ou en tout cas dont les débuts correspondent au pontificat d'Innocent III, c'est-à-dire la reconnaissance des dominicains et des franciscains, notamment les deux premiers ordres mendiants qui sont reconnus dans un premier temps par Innocent III, puis ils le seront plus fermement, en quelque sorte, par son successeur Honorius III. Mais ça aussi, ça contribue à la révolution pastorale guidée en partie par Innocent III, puisque on sait que les ordres mendiants vont connaître un succès fulgurant, notamment dans les villes, et vont beaucoup contribuer, à la discipline et aux nouvelles pratiques religieuses des laïcs. Et enfin, il faut absolument mentionner, quand on parle d'Innocent III, on ne peut pas faire l'impasse sur sa lutte acharnée contre les hérésies, et ça fait partie, même si c'est un aspect clairement... répressif et coercitif, ça fait tout de même partie de l'œuvre pastorale, en quelque sorte, d'Innocent III. On sait que non seulement Innocent III contribue à théoriser et à stigmatiser l'hérésie en en faisant justement un crime de lèse-majesté, hein, ça c'est presque dès les débuts de son pontificat, il en fait un crime de lèse-majesté, et puis on connaît aussi un aspect moins doctrinal et plus pratique qui est celui de la croisade contre les Albigeois en 1208, c'est tout de même Innocent III, suite au meurtre de l'un de ses légats, qui enclenche cette croisade dont la violence sera absolument paroxystique, hein, dans le Languedoc, dans le midi de la France. Et enfin, les deux sont d'ailleurs tout à fait liés, ce combat que Innocent III a eu à cœur de mener contre les hérésies, il est lié aussi à un échec absolument cuisant qui le marquera jusqu'à sa mort, hein, jusqu'à la fin de son pontificat, qui est l'échec de la croisade. Innocent III, comme beaucoup de ses contemporains, a été marqué par la prise de Jérusalem en 1187, par la prise de Jérusalem par Saladin. C'est lui qui, par conséquent, appelle à une quatrième croisade en 1204.
Et ça termine à Constantinople.
Exactement. Cette croisade, elle est détournée par les Vénitiens et ça se termine sur la prise de Constantinople et ça n'ira pas plus loin.
Alors pour finir, Arnaud Fossier, quelle est la postérité de ce pape? Il y a à la fois l'œuvre politique, et on pense à la postérité chez Boniface VIII, mais aussi l'œuvre pastorale et la postérité, au fond, sous certains aspects, elle a un écho jusqu'à nos jours.
Alors, je reprendrai ici une formule d'Olivier Guyot-Janin qui dit que ce fut un pontificat fertile plus qu'heureux. Je trouve la formule joliment tournée. Une chose est sûre, c'est que le legs de ce pape est considérable, en tout cas pendant les derniers siècles, jusqu'au dernier siècle du Moyen-Âge, jusqu'au XVe siècle, puisque effectivement plusieurs pontifes, notamment Innocent IV et Boniface VIII, bien sûr, sont les héritiers de cet absolutisme pontifical, comme le disent certains historiens, donc de cette théorie du pouvoir, mais qui est chevillée, qui est articulée aussi à une pratique du pouvoir. On pense à Boniface VIII et son conflit avec Philippe le Bel, bien sûr. Mais au XVe siècle, force est de reconnaître que le mouvement conciliaire et le conciliarisme, donc en tant que courant doctrinal aussi, le conciliarisme qui consiste à proclamer que le concile tient son pouvoir directement du Christ et que le pape n'est que le ministre du concile et pas autre chose, eh bien il est bien évident que le conciliarisme met fin, ou en tout cas tempère et atténue cette forme très monarchique du pouvoir dans l'Église. Le concile de Constance qui quand même juge hérétique et schismatique pas moins de deux papes et contribue à déposer ces papes. Donc on voit bien qu'on n'est plus dans la même conception du pouvoir pontifical. En revanche, il est certain que l'œuvre pastorale d'Innocent III a perduré, on peut aller jusqu'au Concile de Trente, hein, jusqu'au milieu du XVIe siècle au moins, cette œuvre pastorale a marqué vraiment la fin du Moyen-Âge.
Eh bien, merci beaucoup Arnaud Fossier d'être venu à ce micro pour évoquer ce personnage assez fascinant. On peut conseiller comme orientation bibliographique le livre d'Olivier Hahn sur Innocent III. Je crois qu'il y a à la fois une biographie et un résumé de sa thèse. Si mes souvenirs sont bons, la biographie est chez Belin et la thèse chez un autre éditeur. Je mettrai toutes ces références sur le site internet. Merci beaucoup, cher Arnaud, et à très bientôt, chers auditeurs, pour une nouvelle série de nos cours d'histoire.